As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this? A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy!
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds!
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce mercredi 22 juin. Je l'étais hier, je le serai demain aussi. Et comme toujours, je suis en compagnie de Arpin Basu. Bonjour Arpin, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien Marc-Antoine, ça va bien. Finale de la Coupe Stanley. J'aime ça.
Oui.
C'est le fun. Le repêchage qui s'en vient.
C'est le fun aussi.
C'est le fun aussi, alors... puis il semble avoir de l'action qu'on attend voir. T'sais. C'est comme à chaque année avant le repêchage, on entend cette notion-là, oh, on va voir plein de mouvements, on va voir plein de choses. Puis à chaque année, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Mais
exact.
Je sais pas pourquoi cette année, j'ai le sentiment que peut-être cette année, ça va être la bonne année pour ça, je sais pas. Tu sais, j'hésite de le dire parce qu'à chaque année, il semble être la bonne année, mais il me semble que cette année, il y a quelque chose qui est un peu plus légitime dans ce constat-là.
Ouais. Alors, est-ce que tu fais référence précisément aux Canadiens quand tu parles de cette impression-là?
Ben, je pense qu'en général, mais je pense que les Canadiens sont placés pour effectivement être une de ces équipes-là qui a des joueurs qui sont disponibles, qui sont ouverts à pas mal tout. Ils n'ont pas nécessairement de la flexibilité en termes d'argent que tu penserais avoir, étant donné qu'ils ont terminé 32e l'année passée. Mais définitivement, beaucoup d'ouverture. Quand il y a un nouveau régime qui rentre, ils n'ont pas nécessairement un attachement à ces joueurs-là. Ils n'ont pas investi leur propre réputation sur ces joueurs-là. Alors, c'est plus facile pour une nouvelle équipe de gestion, d'échanger quelqu'un que quelqu'un qui est allé chercher ce joueur-là, puis par après doit un peu admettre avoir fait une faute ou que ce joueur-là n'est pas un fit ou quoi que ce soit. Alors, cet élément-là n'existe pas avec le Canadien cette saison. Puis Kent Hughes, écoute, quand il réussit à faire l'échange chez Weber, puis on s'entend que si c'était la seule chose que Kent Hughes aurait fait dans cette entre-saison-là, ça serait une bonne saison morte pour le Canadien. T'sais, juste le fait de réussir de se débarrasser du contrat de Shea Weber, c'est déjà fait en sorte que le Canadien a eu une bonne entre-saison. Ça, c'est sans compter ce qu'ils vont faire au repêchage ou quoi que ce soit. S'ils faisaient rien d'autre que faire cet échange-là, puis aller choisir des joueurs au repêchage, je dirais que c'était un succès. Mais à ce moment-là, Kent Hughes a dit que on espère avoir d'autres nouvelles à vous donner bientôt. Alors, écoute, ce gars-là, une chose qu'on a appris, je pense, de Kent Hughes déjà, c'est que c'est un gars qui parle d'une certaine franchise qu'on n'a pas vue. Des directeurs généraux, je dirais même pas juste le dernier, mais d'autres avant. Tu sais, Kent Hughes, quand il répond simplement oui, quand il dit que s'il pense qu'il y a encore un marché pour Shea Weber, puis un mois ou six semaines plus tard, il réussit à échanger Shea Weber sans rien donner comme d'ajout, comme sans donner de choix de repêchage, soit donner de prospect, soit donner quoi que ce soit. Faut dire que Kent Hughes, quand il dit quelque chose fermement, il faut le croire. Alors, en tout cas, ça a l'air qu'au moins dans les yeux, tu sais, selon Kent Hughes ou de sa perspective à lui, on devrait s'attendre à voir d'autres mouvements d'ici quelques semaines.
Oui, absolument. Ben écoute, il semble y avoir deux objectifs que le Canadien poursuit à l'heure actuelle. Le premier, c'est de pouvoir se faire de la marge de manœuvre salariale. Donc, autant que possible, échanger des contrats qui sont trop lourds pour lui. Et également, peut-être essayer d'améliorer sa situation au repêchage. Ça m'apparaît assez intéressant. Tu mentionnais d'entrée de jeu du fait que même si on en parle à chaque année avant le repêchage, que ça pourrait être l'année où il y a du mouvement dans le haut du tableau, c'est très rare que ça se produise. Effectivement, les fois où ça s'est produit, c'était davantage des échanges qui avaient été faits auparavant et qui n'avaient pas été faites, qui n'avaient pas été réalisées avec les deux équipes impliquées qui ont conscience du rang où ce choix-là va tomber. Si on regarde des échanges qui sont faits en marge du repêchage et qui impliquent des choix top 10, écoute, les deux échanges les plus récents, il y en a un en 2021 qui impliquait Oliver Ekman-Larsson quand les Coyotes ont mis la main sur un choix de premier tour, celui des Canucks. Donc ça, c'était le 9e au total avec lequel ils ont repêché Dylan Gunter. Donc c'est en 2021, puis ça s'est passé le jour du repêchage. Et quelques années auparavant, un certain Jeff Gorton avait échangé, encore là, ça impliquait les Coyotes, avait échangé Derek Stepan et Antti Raanta aux Coyotes en retour d'Anthony DeAngelo et du premier choix des Coyotes, qui était le 7e au total, avec lequel son directeur du recrutement européen, Nick Bobrov, et lui-même ont repêché Elias Andersson, de triste mémoire. Donc ça, c'est les deux transactions les plus récentes. Autrement, c'est vrai que c'est plus rare, mais là, j'ai hâte de voir si le Canadien va être en mesure de réussir ces deux objectifs-là de front. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que c'est possible que le Canadien fasse un échange dans lequel il libère de la masse salariale tout en avançant en améliorant son rang de sélection? Évidemment, il choisit premier au total, mais on rappelle à tout le monde, ils ont le 26e choix, ils ont le 33e choix, ils ont le 62e choix. Est-ce que tu penses que les deux objectifs peuvent faire partie d'une même transaction, où il faut que ce soit deux opérations qui sont nécessairement différentes parce qu'il y en a un où tu acceptes d'être un petit peu en position de faiblesse, puis l'autre, ben, il faut que tu donnes nécessairement des actifs pour pouvoir t'améliorer là, au repêchage?
Ben, c'est difficile à dire parce que dans le fond, ça dépend du temps. Moi, je trouve qu'il y a certaines catégories dans lesquelles les Canadiens peuvent se libérer du salaire. Puis, je pense que un de ces deux catégories ne semble pas être quelque chose qui intéresse Kent Hughes trop. Il a déjà dit, encore une fois, assez fermement, qu'il n'y avait aucun intérêt à dépenser des acquis pour l'avenir, ça veut dire des espoirs ou des choix, pour se débarrasser d'un contrat. Alors, il me semble que si tu veux échanger quelqu'un comme Mike Hoffman, peut-être un peu moins, mais aussi comme un Jonathan Drouin, je pense pas qu'il y ait une grande valeur sur le marché d'échange en ce moment. Et dans le cas de Jonathan Drouin, ça serait vraiment un non-sens de dépenser pour se débarrasser de lui, vu qu'il reste juste un an sur son contrat. Mais un gars comme Mike Hoffman, peut-être même Christian Dvorak, ça se peut que, tu sais, si tu libères deux ou trois ou quatre années de contrat, ça vaut la peine, mais selon Ken Hughes, et encore une fois, je le crois, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Là, il y a deux joueurs, ben, peut-être plus que deux, mais il y a deux joueurs principalement, peut-être même trois en fait, si on inclut Brendan Gallagher, Josh Anderson, Jeff Petrie, qui ont probablement un bon valeur sur le marché d'échange où tu n'aurais pas besoin nécessairement de donner quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu reprends un contrat pour essayer de niveler un petit peu l'argent, mais tu reprends un contrat qui a moins d'années, qui reste un peu comme ils ont fait avec le contrat d'Evgeny Dadonov contre Shea Weber. Je trouve que ces trois gars-là, il y a une possibilité, et dans le cas de Gallagher, je pense que c'est vraiment mince, cette possibilité-là. J'ai pas l'impression que Ken Hughes ni Jeff Quartin veut échanger Brendan Gallagher, ou même Josh Anderson, mais surtout Brendan Gallagher, qui ça prendrait une offre quand même assez intéressante pour qu'il lui donne pas une autre chance. Puis je pense qu'on va en parler tantôt, mais ces trois gars-là, je pense que Canadien, c'est raisonnable de croire qu'il serait capable de trouver un échange où non seulement qu'il donne pas d'acquis, mais qu'il reçoit quelque chose qui pourrait aider dans la reconstruction ou reset ou quoi, n'importe ce qui se passe ici à Montréal en ce moment, mais c'est quelque chose qui aiderait pour l'avenir. Je pense que c'est raisonnable de croire que ces trois gars-là pourraient être des cibles possibles pour un échange qui est plus hockey que juste de débarrasser d'un contrat.
Bon, écoute, tu mentionnais le nom de Jeff Petrie, on va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on commence par discuter justement de la situation des attaquants. Tu parles de Josh Anderson. Là, le Canadien vient de faire l'acquisition d'Evgeny Dadonov. Kent Hughes suggère que il prévoit l'utiliser cette année à Montréal. Si le Canadien est en dehors du portrait des séries, je présume qu'ils vont considérer de l'échanger à la date limite des transactions, mais sauf qu'ils peuvent trouver le moyen de le mettre en valeur durant la prochaine saison, durant les premiers deux tiers de l'année. Mais son arrivée fait en sorte qu'il y a quand même un bon bagage d'ailier, un bon groupe d'ailier chez le Canadien en ce moment. Et c'est là, me semble-t-il, que si tu veux faire de la place au point de vue salarial, c'est là que tu peux plus le faire, nonobstant le cas de Petrie. Parce que là, évidemment, Caulfield est le meilleur ailier de ce groupe-là. Mais là, tu t'ajoutes Dadonov, tu mentionnes Gallagher, Anderson, il y a Mike Hoffman, il y a Jonathan Drouin, il y a Rem Pitlick qui est tombé dans l'œil de Martin Saint-Louis, qui a fini l'année avec quelque chose comme 22 points en 30 matchs, quelque chose comme ça. Un peu moins que ça, mais quand même, il y a une belle production. Puis là, évidemment, tu as les joueurs de profondeur, Yoel Armia, Paul Byron, puis ça, c'est sans compter vouloir peut-être trouver une place pour des jeunes comme Ryan Poehling ou Jesse Ullonen. Ça fait beaucoup d'ailiers. Comment tu vois les choses se dessiner? En partant, là, si jamais Dadonov commence bel et bien la saison à Montréal, moi, j'ai écrit que probablement que la meilleure façon de générer de la valeur chez ce gars-là, ce serait de l'utiliser avec Caulfield et Suzuki, étant donné que de toute manière, il y a eu un jeu de chaise musicale à l'aile droite en deuxième moitié de saison l'année dernière. Mais si on veut lui donner une place sur le top 9, est-ce qu'il y a trop d'ailiers en ce moment? Je dis pas par là que le Canadien est trop bien nanti, puis mon Dieu, ils sont gras durs. Non, mais juste purement en termes de quantité d'ailiers qui sont potentiellement des top 9. Est-ce que le Canadien a un ailier en trop à l'heure actuelle avec tous ces gars-là?
Mais pas vraiment, dans le fond, mais la seule façon qu'il y aurait quelqu'un de trop, parce que dans le fond, j'ai aucun problème que Rem Pitlick se retrouve dans une situation où il faut qu'il fasse une petite rotation, ou il faut qu'il compétitionne pour un spot dans l'alignement partant ou dans l'alignement pour le premier match, parce que avec tous les ailiers que tu viens de mentionner, tu sais, c'est comme, t'as besoin de 8 ailiers, puis t'en as mentionné pas mal 8. Là. Ça fait déjà une équipe. Puis Dadonov, que moi aussi, je suis convaincu qu'il va avoir au moins un rôle top 6, parce que c'est pas un gars qui est vraiment reconnu pour ses capacités défensives, puis comme t'as démontré dans ton texte, puis c'est juste une réalité avec ce gars-là qu'il a besoin des joueurs de talent pour jouer, pour que t'ailles chercher le plus de valeur possible de ce joueur-là. Alors, le faire jouer avec Christian Dvorak et Yoel Armia, par exemple, c'est pas la meilleure façon de rendre Dadonov un bon joueur pour ton équipe en ce moment et en plus pour chercher du valeur peut-être aux dettes limites de transaction la saison prochaine. Alors, tu sais, je dirais que oui, peut-être, ils ont trop d'alliés, mais avec la saison que les Canadiens viennent connaître et avec les saisons qu'on voit partout dans la ligue, peux-tu vraiment avoir trop de joueurs d'une certaine façon? Tu sais, est-ce que ça ferait vraiment. Tu sais, est-ce que Jesse Ullmark, c'est absolument nécessaire qu'il joue dans la Ligue nationale l'année prochaine? Pas nécessairement, pas à mes yeux au moins. Une autre année dans la Ligue américaine le ferait peut-être du bien. C'est pas comme s'il a dominé à Laval cette saison. Il a connu une bonne saison, mais c'est pas comme c'est un joueur qui a rien d'autre à prouver à ce niveau-là. Rem Pitlick, comme j'ai mentionné, est-ce que c'est un gars que tu dois absolument faire une place pour lui? Je sais que Martin Saint-Louis l'aime beaucoup, mais ça veut pas dire que tu vas commencer à échanger des gars pour faire une place à Rem Pitlick. On commence à frôler le ridicule un peu. Alors, tu sais, les ailiers que tu as mentionnés, t'ont quand même des pas pires ailiers. En fait, c'est un pas pire groupe d'ailiers dans la Ligue nationale. Là, c'est comme si Caulfield reprend où il a laissé, si Gallagher est capable de retrouver sa game, puis tu sais, récemment, il a fait une entrevue avec TSN 690 à Montréal en disant que son corps sent bien finalement, puis bon, tu sais, je pense que, moi je l'ai écrit, toi tu l'as écrit, je pense qu'il a mérité un petit peu de bénéfice de doute pour dire que les deux dernières saisons, mais particulièrement la dernière saison, on devrait lui donner une chance de prouver que c'est pas le début d'un déclin dans son cas. Alors, on verra. Jonathan Drouin, en fait, moi, j'ai beaucoup espoir que parce qu'il jouait bien. Il jouait pas du mauvais hockey là, quand il s'est blessé l'année passée, ou cette saison, je veux dire. Alors, ça, c'est un autre gars où c'est une année de contrat. C'est un gars qui va être super motivé. Peut-être que le Canadien pourrait aller chercher quelque chose pour lui à la date limite aussi. Peut-être même cet été, je sais pas. Mais avec le groupe que tu as mentionné, c'est... Je vois pas comme un cas où c'est trop délié nécessairement. C'est juste un groupe délié avec des questions, avec beaucoup de questions, un peu partout. Mais c'est comme l'équipe un peu. Là. C'est le Canadien, il y a beaucoup de questions en ce moment, mais je dirais pas que c'est nécessaire d'aller échanger quelqu'un. Ce qui est une bonne position pour Ken Hughes et Jeff Quartin, c'est qu'ils sont pas dans... C'est pas une nécessité qu'il y ait... échanger quelqu'un, mais s'ils reçoivent un appel, comme c'était le cas avec Lekkonen, dans le fond, Lekkonen, ils voulaient pas l'échanger, mais ils ont reçu une offre qui était tellement bon, ils étaient pas capables de le refuser. Je pense que c'est la même chose avec Josh Anderson, avec peut-être même Brendan Gallagher. C'est une situation où ils sont pas obligés de faire quoi que ce soit.
Mm-hmm. Ben écoute, je sais que Kent Hughes a mentionné qu'il voulait pas céder des atouts, des actifs pour pouvoir faciliter une transaction qui lui permettrait de liquider du salaire. Mais là, dans le groupe qu'on a nommé, il y a Dadonov est en fin de contrat, Drouin est en fin de contrat, Byron aussi. Et puis, tu ajoutes à ça des gars comme Hoffman et Armia qui, à mon sens, devraient être probablement, idéalement, les deux autres cibles de gars à qui il reste des années de contrat qu'il faudrait probablement trouver le moyen d'échanger pour assainir la masse salariale. Si j'avais été à la place de Kent Hughes, je ne le suis pas et je ne le serai jamais, mais j'en aurais investi du capital de choix au repêchage ou d'espoir pour pouvoir me débarrasser de ces contrats-là, mais visiblement, ça n'arrivera pas. Alors, dans ce contexte-là, si tu as des gars, tu as trois alliés déjà qui pourraient partir à la date limite des transactions parce qu'ils sont dans la dernière année de contrat, effectivement, tu te retrouves avec deux joueurs, Anderson et Gallagher, qui peuvent potentiellement être attrayants. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça intéressant l'autre jour parce que Kent Hughes, quand il a commenté la transaction de Shea Weber et Yevgeny Dadonov, a lui-même abordé la question de Josh Anderson, disant ben, « Je suis conscient qu'il y a des rumeurs qui circulent au sujet de Josh Anderson. » Il y a eu des discussions, mais sauf que moi, j'ai pas... même si j'ai pas d'intérêt... à échanger Josh Anderson, je ne peux pas faire autrement en tant qu'équipe qui est 32e au classement général. Je ne peux pas faire autrement que d'écouter tout ce qu'on me propose, peu importe les joueurs qui sont impliqués. J'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils prennent la peine de faire ce détour-là alors que tu sais, c'était pas exactement le motif premier de cet appel-là. Bon, il y a eu une question quand même au sujet de Josh Anderson, sauf qu'il m'apparaît que si le Canadien...
Ben, c'est pas une question sur le sujet de Josh Anderson. C'est une question au sujet du fait que est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres transactions dans les, dans les prochaines semaines. Et je pense que c'était intéressant parce qu'il a nommé Josh Anderson parce que notre collègue Frank Saravelli l'avait mentionné que le Canadien recevait beaucoup d'appels sur lui, puis il y a beaucoup de discussions autour de la Ligue, autour de lui. Alors, je ne sais pas, et c'est ça que Ken Hughes a dit, il reçoit des appels, dire qu'il y a des discussions, il reçoit des appels, il a confirmé ça, mais je pense qu'il voulait peut-être remettre les pendules à l'heure un peu dans le cas de Josh Anderson spécifiquement pour dire que oui, effectivement, on reçoit des appels, mais ça ne veut pas dire qu'on va les changer bientôt. Là.
Non, c'est ça. Mais tu sais, l'affaire avec Anderson, puis je comprends que c'est un gars qui a de la valeur, c'est un gars qui peut justement te permettre, étant donné qu'il est encore sous contrat pour 5 ans, il peut te permettre d'assainir ta masse salariale, puis il y a un côté attrayant à tout ça. Mais en même temps, le package qu'il offre, c'est exactement la même raison pour laquelle le Canadien peut s'intéresser à un gars comme Juraj Slafkovský au premier rang du repêchage. C'est avec des ailiers qui sont gros, qui patinent bien, qui ont un instinct de marqueur. Puis je pense que Slafkovský est probablement destiné à devenir un joueur plus complet avec un meilleur sens du hockey que Anderson. Mais quand même, c'est un type de joueur qui est difficile à trouver. Quand tu l'échanges, tu vas passer les 3 prochaines années après à essayer d'en trouver un qui va être du même type. Alors, il faut faire attention quand même. C'est pour cette raison-là que même si les totaux de buts d'Anderson ne sont pas nécessairement à tout casser, même s'il reste 50 contrats à un bon salaire, il va quand même trouver preneur. Puis c'est normal que le téléphone du Canadien sonne pour ses services. Alors, je me dis, si le Canadien veut améliorer un rang de repêchage pour avoir un autre haut choix en plus du premier au total, il m'apparaît qu'Anderson est probablement le meilleur candidat pour y arriver. Alors, est-ce qu'ils vont tirer sur la gâchette? On verra bien. Sauf que, il me semble que, étant donné, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'ailier en trop, mais si tu veux en même temps trouver le moyen d'élaguer, si tu veux réduire la pression au point de vue salarial, ben, il va falloir que tu te débarrasses de quelqu'un. Puis si les gars qui sont moins attrayants, t'es pas prête à céder des actifs pour les rendre plus attrayants, ben, il faut que tu te vires de bord puis tu te dis, ben, OK, on va céder un des gars pour qu'il reçoive des appels.
Oui, absolument. Puis je pense que Josh Anderson va aussi profiter du fait que un peu le même phénomène qui existait avec Ben Chiarot. T'sais, Ben Chiarot n'a pas connu une saison qui méritait qui méritait un retour d'un choix de première ronde des Panthers de la Floride, en plus d'un espoir, un espoir de, disons, niveau C, mais quand même un espoir. C'était surtout sa performance en série 2 années de suite avec les Canadiens qui a convaincu les Panthers de la Floride que c'est le type de joueur qu'on a besoin. Josh Anderson en série, particulièrement contre les Maple Leafs, mais plus ou moins tout au long des séries, a démontré à quel point un gars comme ça peut être utile en série, même s'il ne marque pas nécessairement beaucoup de buts. Lui, en échec avant, l'impact qu'il a eu sur juste le breakout des Maple Leafs de Toronto, si Josh Anderson était sur la glace, ces défenseurs-là, rendus au 3e ou 4e match, voulaient juste se débarrasser de la rondelle, ça ne leur intéressait pas du tout d'avoir Josh Anderson qui s'en venait à pleine vitesse pour la frapper encore. Il était tanné. Puis il y a eu un impact visible sur cette série-là, sans nécessairement dominer en termes de buts ou de points. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont sûrement se rappeler de ça, dans le cas de Josh Anderson. Mm-hmm. Moi, je suggérais que Jeff Gorton et Ken Hughes devraient eux aussi se rappeler de ça, que si tu veux que cette équipe-là, tu sais, comme tu dis, il reste 5 années sur le contrat de Josh Anderson, ça serait raisonnable de demander s'il serait capable de jouer de cette façon-là pendant 5 ans de plus. Mais effectivement, cette combinaison est difficile à trouver et ça a plus de valeur en série que pendant la saison régulière. Alors, oui, s'il y a une équipe qui vient d'être éliminée en séries éliminatoires, qui trouvait qu'il manquait cet élément-là, puis ils sont prêts à payer le prix que ça va prendre pour que le Canadien écoute. Oui, j'aurais rien contre l'idée d'échanger Josh Anderson, mais c'est quand même quelqu'un qui peut facilement faire partie de l'avenir de cette équipe-là, particulièrement si ils espèrent que leur plan prendrait peut-être 2 ans pour se concrétiser. D'ici 2 ans, je pense que Josh Anderson serait quand même un joueur plus ou moins similaire à celui qu'on voit aujourd'hui, là. Alors, c'est une grosse question. Je suis d'accord qu'il faut prendre des décisions à quelque part pour rendre plus flexible la situation financière, mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont dans une bonne position. Tu sais, c'est comme ils sont dans une position exactement comme ils étaient avec Lekkonen. C'est dans une position où c'est vraiment les autres équipes qu'il va falloir, c'est eux autres qui doivent travailler, qui doivent ajouter des éléments à une transaction potentielle pour que Ken Hughes et Jeff Gorton disent finalement, OK, on peut pas dire non à ça, puis ils laissent aller Josh Anderson.
Mm-hmm. OK. En défense maintenant, Jeff Petrie, selon Ken Hughes, le téléphone s'est mis à sonner à son sujet. C'est intéressant parce qu'à une certaine époque, je dirais probablement, assurément, durant la première moitié de saison, il n'y a rien qui allait pour Jeff Petrie. C'était un désastre sur deux pattes. Ça a beaucoup changé sous Martin Saint-Louis. D'ailleurs, quand on analyse les performances des joueurs du Canadien, je pense que en prévision de l'année prochaine, c'est bon de regarder quelles sont les statistiques à partir du 10 février et de regarder de quelle manière ces joueurs-là se sont comportés sous le nouvel entraîneur. Puis Jeff Petrie, écoute, a terminé la saison avec 20 points à ses 27 derniers matchs. Quand tu es un entraîneur, quand tu es un défenseur droitier, qui est doté d'un bon coup de patin, d'un bon gabarit, puis que t'es capable de faire 20 points en 27 matchs, t'es capable de jouer 21, 22, 23 minutes par match, c'est juste normal que tu intéresses certaines équipes. Et on a, ça n'a jamais été un défenseur numéro un. Je pense que d'espérer que ce gars-là prenne un rôle de leader, c'était peut-être trop lui demander parce que c'est pas nécessairement dans sa nature. Mais Jeff Petrie, la demi-saison qu'il a eue au début de la saison 21-22 sous les ordres de Dominique Ducharme, je pense que c'était davantage l'anomalie plutôt que la nouvelle norme à laquelle on pouvait s'attendre. Et je crois que à ce niveau-là, je pense que le Canadien va être en mesure de trouver preneur puis de ne pas le vendre à rabais. Ken Hughes ne veut pas céder Jeff Petrie sans rien obtenir en retour. Il faut qu'il ait quelque chose de concret, que ce soit de la marge de manœuvre salariale pour pouvoir aller chercher un défenseur d'expérience qui le remplacerait, ou encore des atouts pour un haut choix pêchage, mais il pourrait cadrer dans plusieurs équipes. Et je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un peu le tour, voir quelles sont les équipes qui pourraient justement convenir le plus à Jeff Petrie, qui serait le plus susceptible d'intéresser ces équipes-là. Petrie, les noms des Red Wings de Détroit circulent, des Stars de Dallas, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même plusieurs formations qui seraient susceptibles d'être intéressées à lui, là.
Oui, absolument. Puis un qui saute à mes yeux particulièrement, c'est les Flyers de la Philadelphie. L'autre jour, ils ont engagé John Tortorella comme entraîneur-chef. Puis leur DG, Chuck Fletcher, a mentionné que il n'était pas sur le point d'entamer une reconstruction telle quelle. C'est exactement l'opposé. Ce qu'il veut faire, c'est de réinitialiser cette équipe-là relativement rapidement. Alors, c'est une équipe qui, il me semble, c'est une cible qui serait peut-être intéressante pour trouver un preneur pour Jeff Petrie. Dépendamment de ce que tu veux rajouter comme dans cet échange-là, parce que je sais pas, tu sais, c'est sûr que tout le monde juste. Je veux que tout le monde soit calme là, avant que je mentionne ça, mais c'est sûr que les Flyers de Philadelphie ne vont pas juste donner le 5e choix au total. Mais si les Canadiens sont capables de trouver un package qui va leur intéresser pour faire ça, peut-être que Jeff Petrie pourrait faire partie de ce package-là. Je ne sais pas, tu sais, avoir quelqu'un pour jouer avec, disons, un Provorov ou un Sanheim, puis laisser Ristolainen jouer un peu plus loin dans l'alignement. C'est quand même un défenseur top 4, c'est quelque chose qui manque aux Flyers. Alors, s'il veut absolument être dans la discussion pour les séries éliminatoires dès la saison prochaine, ce que l'engagement de John Tortorella l'a suggéré. Un gars comme Jeff Petrie pourrait faire l'affaire là-bas parce que c'est une brigade défensive qui est quand même assez jeune. Ristolainen est pas mal le plus vieux parmi les gars réguliers en défense à 27 ans. Alors, peut-être qu'un vétéran comme Petrie, ça pourrait être un bon fit là-bas. Je ne sais pas ce qui viendrait en retour. J'ai mentionné le cinquième choix, mais ça prendrait bien plus que Jeff Petrie en son temps pour avoir une discussion comme ça. Mais il me semble que c'est une équipe où ça serait une destination qui serait quand même assez intéressante pour Jeff Petrie aussi.
Mm-hmm. Ben, tu vois, moi, je ne le vois pas de la même manière que toi. On parlait tout à l'heure de Josh Anderson. Pour moi, Josh Anderson me semble être un candidat plus attrayant pour les Flyers que Jeff Petrie. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu sais, les Flyers ont l'air déterminés à rester, à travailler à court terme. L'embauche de Tortorella le dit, leur situation actuelle le dit. Je pense qu'ils ont une pression éternelle des propriétaires. C'est jamais une équipe qui est prête à rebâtir. Quand ils ont congédié Ron Hextall, c'est parce que les choses n'allaient pas suffisamment vite à leur goût, puis ils voulaient rapidement se retrouver au sein des équipes compétitives. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les Flyers n'ont pas eu les services de Ryan Ellis cette année, qui est passé toute l'année sur la liste des blessés à long terme. Ils s'attendent à ce qu'ils reviennent en santé la saison prochaine. Mais là,
C'est quand même une question. Là. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent revenir en santé.
Je sais, sauf que la planification, semble-t-il, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il planifie en fonction du fait qu'il va être là pour le début de la saison. Mm-hmm. S'il est là, et que tu as Ristolainen également, ben là, tout à coup, tu as quand même deux défenseurs droitiers qui sont intéressants. Ristolainen, bon, ils se sont empressés de le re-signer, je comprends pas exactement pourquoi, mais bon, ils l'ont fait. Mais ça pourrait probablement fonctionner, ça pourrait être attrayant pour les Flyers, mais je ne sais pas s'ils vont dire, ben nous, on est à l'aise d'avoir Ristolainen, Petrie, puis Ellis du côté droit, puis on verra comment on peut rafistoler le côté gauche après. Ben oui, écoute, c'est pas exclu. Moi, je garde un œil sur les Penguins de Pittsburgh également. Semble-t-il, moi, ce qu'on m'a dit à l'occasion du Combine, c'est que il y avait de bonnes chances, malgré le fait que les choses ont l'air de progresser lentement. Il y avait quand même un bon espoir que Christopher Le Temps reste à Pittsburgh. Mais là, on est rendu au 22 juin. Le temps passe. Et puis, si jamais ça ne se concrétise pas et qu'il quitte, ben, il va y avoir un trou béant du côté droit pour la défensive des Penguins de Pittsburgh. Et à ce moment-là, probablement que Petrie pourrait être un gars qui devient intéressant. Sauf que il va falloir pour ça que, par exemple, aux alentours du repêchage, les Penguins sachent à quoi s'en tenir. Le repêchage va avoir lieu une semaine avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et probablement qu'au repêchage, ils vont vouloir savoir, OK, quelles sont nos chances de pouvoir retenir les services de l'OTAN? Si jamais ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, allouer des fonds, prévoir de l'argent pour pouvoir aller chercher un gars comme Petrie comme solution de remplacement, c'est pas idéal, c'est un downgrade, mais c'est pas farfelu non plus. Alors.
Non, puis la même catégorie, c'est Dallas aussi, là. C'est évidemment la situation de John Klingberg est quelque chose qui est pas sur le point d'être réglé. Je pense que Klingberg aimerait ça revenir. Je pense que les Stars aimeraient ça le revoir, mais à quel prix, c'est ça le problème. Tu sais, je pense que John Klingberg est dans le droit de s'attendre qu'il soit payé comme un gars offensif de premier plan là, dans la Ligue nationale. C'est un droitier. Il a 29 ans. Alors, peut-être la longueur du contrat pourrait être un compromis à faire, mais je pense qu'en termes d'argent, les Stars en ont pas beaucoup. Ils sont pognés. En fait, leur situation est un peu similaire de ce que Montréal est en train de vivre là, avec Seguin et Ben. Ouais. C'est un peu le Weber et Price des Stars. Là.
Sauf qu'ils jouent, eux autres.
Non, sauf qu'ils jouent, mais tu sais, Seguin, il est magané. Il y a eu un chirurgien. Ben aussi, tu sais, il joue, mais il ne joue pas comme un joueur de 9,5 millions de dollars, on s'entend. Là. Alors, c'est comme. Alors, avec leur situation, c'est, il paye Heiskanen presque 8,5 millions. Il y a presque 20 millions attachés à ces deux joueurs-là que j'ai mentionnés tantôt. Et alors, il ne peut pas juste payer Klingberg ce qu'il veut. Alors, on verra comment ça va, mais si jamais ils ne sont pas capables de signer John Klingberg, puis ils savent, si ça n'arrive pas avant le repêchage, il faut croire qu'ils vont commencer à chercher un plan B d'une quelque sorte, et Jeff Petrie pourrait être un bon plan B pour eux autres.
Oui, parce qu'ils n'ont pas de droitier, eux autres, en défense. Là. Il y a un gars qui s'appelle Yanni Hackenpah, mais tu sais...
Oui, mais c'est pas, tout. C'est tout. Okay. Même tu sais, leur meilleur espoir en défense, c'est Thomas Harley, qui est un gaucher aussi. Ouais. Esa Lindell, gaucher. Ryan Suter, gaucher. Heiskanen est capable de jouer des deux bords un peu, mais idéalement, tu sais, ça prend un droitier. Klingberg, c'était ce gars-là. Alors, peut-être que le Canadien pourrait trouver un preneur avec les Stars. Si ça veut dire ramener des choix au repêchage, ou tu sais, je pense que ça prendrait un joueur quelconque, parce que honnêtement, les Stars n'ont pas vraiment quelqu'un à offrir que le Canadien pourrait espérer peut-être jouer cette saison. Mais
ils ont des jeunes, par exemple, ils ont une pépinière de jeunes attaquants assez alléchante.
Ah non, ils ont des. Non, mais moi je parle en défense. Oui, ils ont plein de jeunes attaquants qu'ils pourraient offrir, mais Ken Hughes a été clair qu'il veut quelqu'un qui remplace Jeff Petrie. Je pense pas que tu vas trouver ce joueur-là chez les Stars, mais oui, effectivement, ils ont beaucoup de jeunes joueurs en attaque. Maverick Book, qu'on voit dans la Coupe Memorial en ce moment, c'est ils l'ont. Antonio Stranges a eu une bonne saison cette saison. Ty Landry est encore intéressant, même si ça commence à tarder un peu pour lui. Wyatt Johnson vient de connaître une saison tonnerre dans la Ligue de l'Ontario. Alors oui, effectivement, ils ont beaucoup d'acquis dans cette équipe-là pour peut-être faire fonctionner un échange, mais en termes de fit, c'est un bon fit si jamais Klingberg n'est pas là. Puis s'il veut égaler les salaires un peu, puis un peu faire l'affaire du Canadien, ils ont toujours Anton Hudobin. Qui est là.
Pour un an, là.
C'est pas fou, là, ça se peut. Puis ça allégerait leur masse salariale un peu, puis ça aiderait à absorber un peu le salaire de Jeff Petrie aussi.
Ça, je t'avoue que je trouverais pas ça vilain. Anton Kulubin, ça me semble être une...
Ouais.
Tu sais, dans la mesure où tu dis, OK, là, on va... Dans la foulée de...
Ben, au pire, il se retrouve de chez Weber, tu sais.
Ouais. Pardon. Ben oui, c'est ça. Exact.
Au pire, il se retrouve à Laval, puis c'est pas grave.
Puis il prend la place de Kevin Poulin. Ça, c'est le... Ben oui. Mais, tu sais, dans le même esprit que l'échange de Shea Weber, c'est on va... En autant qu'on peut améliorer la situation du Canadien à moyen terme, même si ça fait en sorte que la saison qui vient est plus hypothéquée, c'est tout à fait correct, là. Tu sais, puis je pense que... Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec Samuel Montembeault, avec Kaden Primeau qui a repris des couleurs dans le dernier mois et demi de la saison avec les séries éliminatoires du Rocket. Mm-hmm. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant de ce côté-là avec les Stars de Dallas. Il y a aussi la possibilité d'aller de regarder du côté des équipes qui ont des contrats à donner justement en retour. Pas nécessaire, des contrats qui peuvent être considérés comme étant des mauvais contrats pour l'équipe qui les possède, mais qui peut servir la cause du Canadien. T'sais, si le Canadien jugeait, en l'absence de Carey Price, qu'il a absolument besoin d'un gardien auxiliaire, d'un gardien numéro 2 ou au pire d'un gardien numéro 3, Kudobin, c'est ce genre de gars-là. Mm-hmm. Mais tu peux regarder aussi en défense, est-ce qu'il y a des équipes à quelque part qui ont des défenseurs droitiers? C'est une roche dans notre soulier. On serait content de pouvoir s'en départir. Puis le Canadien pourrait trouver une façon d'échanger Jeff Petrie à ces équipes-là. Pour moi, les Prédateurs de Nashville, c'est une équipe qui a ce genre de joueurs-là. Tu sais, je parlais de Ryan Ellis tout à l'heure. Le défenseur Philip Myers a fait partie de la transaction qui a fait passer Ryan Ellis des Prédateurs aux Flyers. Et il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment un défenseur qui était en développement, qui était encourageant. Il y avait un futur quand même assez intéressant. Philip Myers, il était allé au championnat du monde pour représenter le Canada. Et là, ça n'a pas fonctionné du tout pour lui à Nashville. Il a été laissé de côté plus souvent qu'à son tour. Il a été cédé à la Ligue américaine. Il n'a pas participé aux séries éliminatoires du tout. Et c'est un gars qui il reste... une saison avant de devenir joueur autonome avec compensation, donc une saison avant que l'équipe qui a ses droits dise est-ce qu'on lui offre une offre qualificative ou on le laisse partir. ça peut encore là, il me semble, être un gars qui tu peux récupérer son contrat dans le cadre d'un échange qui enverrait Jeff Petrie dans un endroit comme Nashville, puis, bon, et voir du même coup est-ce qu'il y a un actif que les Prédateurs ont qui pourrait aider à rendre le Canadien meilleur. Donc, ça aussi, je pense que quand tu analyses les destinations potentielles pour Jeff Petrie, il faut que tu regardes aussi le type de, entre guillemets, de mauvais contrat que le Canadien peut aller chercher. Puis il me semble que Nashville est une destination qui a un certain sens.
Oui, absolument. Rapidement, avant de terminer, t'sais, on a mentionné comme trois gars, alors je voulais juste parler du cas de Brendan Gallagher un tout petit peu, ouais, avant qu'on termine. Tu sais, je me demande, il a dit souvent qu'il a hâte d'avoir un plein été pour préparer son corps, pour être bon physiquement, puis tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, il vient de parler à TSN 690 à Montréal mardi, si je ne me trompe pas, puis il a mentionné à quel point il se sentait bien, mais la question qui me revient dans son cas, tu sais, parce que lui, il a mentionné que tu sais, les deux dernières années ont été difficiles, puis effectivement, son corps, comme il nous l'a dit avant de quitter, son corps n'était pas à la hauteur. Il l'a pas permis à performer de la façon qu'il voulait performer. Ma question, c'est que si c'est le cas, et que le Canadien espère un jour, au cours des six prochaines années, ou le temps qui reste sur son contrat, s'ils veulent être une équipe qui aspire aux grands honneurs, et que, oh pardon, il reste 5 années sur le contrat de Brendan Gallagher, mais s'il veut être une équipe qui est compétitive, qui est capable de se rendre loin en série, dans cette fenêtre de temps-là, si Brendan Gallagher a besoin d'une plein été pour être préparé pour jouer une pleine saison régulière, c'est un peu contradictoire, non? C'est un problème. C'est que si les étés sont courts, qu'il ne soit pas capable de performer l'année d'après, ben si tout va bien pour le Canadien, éventuellement, Gallagher va être dans une situation où il n'y aura pas une pleine été pour se préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est... J'espère pour lui qu'il est capable de rebondir puis trouver des différentes façons de se préparer pour la saison parce que c'est pas vrai que tu peux te préparer de la même façon à l'âge de 22 que tu peux à l'âge de 30 qu'il vient d'avoir. Mais la question se pose, tu sais, c'est comme, oui, on comprend que les étés étaient courts, mais si tout va bien, ce que tu espères avoir, c'est des étés courts. Tu sais, c'est ça que tu veux. Demande à Tampa, les étés courts, là, ils sont capables d'en... sont capables de les gérer comme il faut, puis performer rendu en été maintenant. Alors, je me demande à quel point, en 5 ans, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Brendan Gallagher, puis si quelqu'un vient en demandant qu'est-ce que ça prendrait pour avoir Brendan Gallagher avec nous, si Ken Hughes devrait peut-être être un peu moins gourmand dans son cas que dans le cas de Josh Anderson, par exemple.
Ouais, c'est un bon point que tu amènes là. Je pense que, bon, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, tu dis dans un horizon, à quel point ça peut être un problème les étés pour Brendan Gallagher. Je pense qu'on est très loin du jour où le Canadien va aller très loin en séries éliminatoires et va avoir un court été. L'autre affaire, c'est que la pandémie a rendu les étés encore plus courts. Les entre-saisons ont été raccourcis à cause du calendrier qui a été chamboulé. L'autre aspect que je vois, c'est que Brendan Gallagher a négocié pendant un an et demi. Ça fait longtemps qu'il a une blessure, entre guillemets, au milieu du corps.
Ouais.
Qui fait en sorte que... Oui, exactement.
Ouais.
Au tronc.
Oui.
Alors, et ça fait en sorte que il y a eu de la difficulté à s'en remettre. Mais tu dis, OK, s'il retrouve la santé, qu'il est débarrassé de ses blessures à ce moment-là, l'entraînement estival est facilité. Évidemment, maintenir la santé à mesure que tu vieillis, c'est un défi de plus en plus grand. Pour moi, l'inquiétude, avant qu'on regarde de quoi il va avoir l'air dans 5 ans, parce que je pense que si le Canadien, comme on l'espère, redevient une équipe très, très compétitive dans une fenêtre de 5 ans, Brendan Gallagher, lui, ne sera plus un contributeur de premier plan rendu là. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il est capable de rebondir la saison prochaine? Est-ce qu'il est capable de rendre de bons services pour la prochaine année, les 2 prochaines années? Comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il a mérité le bénéfice du doute. Il a ajusté quelque peu son entraînement pour pouvoir travailler davantage en fonction du cardio que de la puissance. Puis je pense que ça, c'est très sage parce que c'est à ce niveau-là qu'on voit qu'il était peut-être un peu plus hypothéqué. Il avait plus de difficultés à suivre le jeu. Et s'il s'améliore à ce niveau-là, les chances de marquer vont venir puis il va redevenir le récupérateur de rondelles qui en faisait un joueur très utile, particulièrement en saison régulière. Alors, je pense que dans la fenêtre, dans les deux prochaines années, les possibilités qu'il redevienne un bon joueur sont intéressantes. Mais là où je te rejoins, c'est qu'une équipe intéressée, potentiellement intéressée à Gallagher pourrait faire exactement la même lecture puis dire « Nous, on croit à ses possibilités, à ses chances de redevenir à court terme un joueur efficace. Et vu qu'on est relativement proche du statut de prétendant de la Coupe Stanley, on va aller chercher un gars comme Gallagher parce que pour les deux prochaines années, à tout le moins de son contrat, il peut nous aider puis on verra après. Mmh. Alors, le Canadien, dans les deux prochaines années, même si Gallagher rebondit, ça va être des efforts qui vont être un peu plus... qui, en guillemets, vont être un peu dans le vide parce qu'ils serviront pas la cause collective ou l'objectif ultime de cette équipe-là qui est le succès, un succès continu, un succès viable à plus long terme. Alors, contrairement à Anderson, qui, oui, a eu ses blessures, mais à 28 ans, il me semble qu'il a encore beaucoup plus de marge de manœuvre. Il va finir son contrat à l'âge de 32 ans. Il me semble avoir beaucoup plus de souffle devant lui que Gallagher. Alors, tout ça pour dire, je pense que tu soulèves un bon point en disant que Gallagher, le Canadien a beau être intéressé à lui, lui a beau se montrer très intéressé à rester à Montréal. Concrètement, quand tu regardes la possibilité qu'il redevienne compétitif à court terme et quelles sont les projections pour lui à long terme, ça a du sens pour le Canadien de dire s'il y a un gars dont on va choisir de se départir, même si on l'aime beaucoup, c'est Brendan Gallagher. Mmh. Sa valeur n'est probablement pas celle qu'elle a déjà été. Je sais qu'il y a certaines formations qui s'inquiètent du fait que son déclin est amorcé, mais c'est un brand, Brendan Gallagher. C'est un nom à travers la Ligue. C'est quelqu'un qui est estimé beaucoup. Et ça, je pense que pour un certain temps encore, ça se monnaie.
Oui, effectivement. Ah. Puis deux choses avec Brendan Gallagher. Premièrement, sa clause de non-échange inclut seulement une liste de 6 équipes auxquelles il n'accepterait pas un échange. Alors, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre si jamais le Canadien serait intéressé à l'échanger. Qu'il faut répéter, le Canadien n'est pas en ce moment intéressé à échanger Brendan Gallagher. Ça va prendre vraiment un appel d'une équipe qui arrive et dit « Écoute, Brendan Gallagher, je pense que ça pourrait être un fit avec nous. On aimerait l'avoir. Voici ce qu'on est prêt à offrir. » L'autre chose, c'est que Gallagher a joué 31 matchs en série les deux dernières années. Pendant ces 31 matchs-là, il a marqué 3 buts. Si on regarde sa carrière depuis l'âge de 20 ans, en 71 matchs en série, il a marqué 13 buts. Alors ça, ça inclut ses années de 20 ans, 21 ans, 22 ans et 24 ans. Alors vraiment dans le prime de sa carrière, où il y a pas, c'est pas quelqu'un qui a historiquement produit en séries éliminatoires. Moi, je vois deux raisons pour ça. Et ça revient... Le premier, c'est que son rôle a changé un tout petit peu les deux dernières années. Mais même avant ça, ça revient un peu au point de sa capacité de son corps d'être capable de jouer la façon qu'il joue pendant une longue période de temps. C'est que c'est possible que rendu en série, il n'est juste pas capable de se donner à fond. Son corps ne lui permet pas de jouer de la façon qu'il joue en mois de mars ou en mois de février, en mois de mai ou en mois de juin. Alors, et ça, c'est deux fois qu'il s'est rendu loin là, dans sa carrière. Il est 2014 et l'année passée. Alors, moi, si j'étais une équipe, je regarderais ce bilan-là en série parce que tu regardes Brendan Gallagher et tu dis « Ah, c'est un gars que tu aimerais avoir en série éliminatoire, c'est fatigant, il serait vraiment... » dur à jouer contre, comme dirait Michel Therrien, mais quelqu'un qui serait très fatigant pour les défenseurs de l'autre bord, pour le gardien de l'autre bord. Mais historiquement, ça n'a pas vraiment été le cas. Là. C'est non seulement, tu sais, je pense que son rendement de ce qui se passe sur la glace, quand il est sur la glace, a été quand même assez bon. On s'est toujours dit que c'était surtout à cause de Brendan Gallagher que ce rendement était bon. Là, je pense qu'on pourrait peut-être se demander si c'était surtout Philippe Dano qui faisait en sorte que ce rendement était bon, tout ça pour dire que c'est fine, si le Canadien veut pas comme aller magasiner Brendan Gallagher, ça va. Mais je pense que s'il reçoit des appels à son cas, puis on s'entend qu'avec 50 contrats à 6,5 millions, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'aller chercher un Brendan Gallagher ou qui seraient même intéressées à aller chercher Gallagher. Alors, s'il y a des appels à son cas, moi, à la place de Ken Hughes ou Jeff Corton, je serais très réceptif à cet appel-là. Je dirais juste ça. Et je discuterais, puis tu sais, ce que je reçois en retour, tu sais, je pense qu'il est dans une catégorie un peu différente qu'Anderson et Petrie, dans le sens où, oui, tu veux recevoir quelque chose en retour, mais tu ne devrais pas demander la lune non plus, là, parce que si tu te débarrasses d'un contrat qui a l'air que ça va être difficile à gérer, ce contrat-là, dans un avenir très rapproché. Là.
Ben, s'il reste 5 ans à son contrat, c'est pas rendu à la quatrième année que tu dis « Oh, OK, peut-être que là, on va essayer de s'en défaire parce que tu n'auras pas... Ça va devenir extrêmement compliqué d'y arriver.
Ouais. »
À propos de son rendement en séries éliminatoires, je vais rajouter une autre hypothèse. Il faut que tu regardes aussi avec qui a joué. Et si tu dis son rôle change, le problème, c'est que le rôle de tout son trio change. En séries éliminatoires, il a été avec Philippe Dano, comme on le sait, pendant 3 ans. Et Philippe Dano était chargé de surveiller les premiers trios adverses. Puis les Canadiens arrivaient en séries éliminatoires et il y avait ce trio-là avait un mandat d'abord et avant tout shutdown. Alors, ça veut dire plus de départs, plus de débuts de présence en zone défensive, une qualité de compétition plus élevée, des opportunités de marquer qui sont plus rares et qui font en sorte que même si ce trio-là réussissait des miracles à force égale en saison régulière, le jeu des séries faisait en sorte qu'il se défendait davantage qu'il l'attaquait rendu en série. Alors, je pense que Brendan Gallagher, si on lui demande de participer à un trio qui est davantage un trio de surveillance, un trio à caractère défensif, il va faire le travail, sauf que ça l'a pénalisé. J'irai plus loin. Dans les années précédentes, autour de 2014-2015, il jouait beaucoup avec Tomáš Plekanec, puis Tomáš Plekanec a été victime exactement de la même chose que Philippe Dano. Étant donné que l'équipe n'avait pas de réel premier centre, ben le en guillemets premier centre de la saison régulière, qui est dans les deux cas, autant dans le cas de Plekanec que de Dano, c'était un gars des centres qui était responsable défensivement, se retrouvait avec ces mandats-là rendus en séries éliminatoires et ça liait les mains un petit peu de Gallagher. Peut-être que s'il se retrouve sur un trio à caractère offensif davantage durant la saison régulière, peut-être que rendu en série, il va se retrouver. Il va avoir encore un peu plus de jambes pour pouvoir collaborer. Je sais pas, mais c'est mon hypothèse.
Il me semble qu'il y a aussi il a passé du temps avec Max Pacioretty et David Dernier, si je ne me trompe pas. Là.
Oui, un peu. Ouais. Effectivement, ça a été...
Alors, tout ça pour dire que, écoute, son historique en série n'est pas super parce que, tu sais, je ne dis pas que Brendan Gallagher, tout ce qu'il fait, c'est de marquer des buts. Mais c'est une grande partie de son identité, puis lui-même, il le reconnaît. T'sais. Lui-même, il le dit, écoute, je comprends, tu vois, ma fiche de but, c'est une grande partie d'une façon que j'aide cette équipe-là, c'est en marquant des buts, je comprends qu'ils sont pas là cette saison, alors je comprends que je vais avoir de la critique, mais moi, je vais faire en sorte que j'aurai plus cette critique-là en allant marquant des buts l'année prochaine. Mais quand tu regardes le bilan en série... 13 buts en 71 matchs, peu importe tout ce que nous deux, on a dit en termes de contexte, en termes d'explication, en termes de quoi que ce soit, c'est une results-based league. Tu sais, c'est comme tout le monde le dit, c'est une ligue de résultats. Il y a 13 buts en 71 matchs en séries éliminatoires, ce qui n'est pas important pour le Canadien en ce moment. C'est ça mon point un peu, c'est que, en fait, ça fait parfaitement bien avec le Canadien parce qu'ils joueront probablement pas en série l'année prochaine. Alors, avoir un Brendan Gallagher en pleine santé pendant 82 matchs qui marque 20-25 buts, le remet en forme, peut-être que ça pourrait permettre d'avoir des discussions l'été prochain pour avoir un échange de Brendan Gallagher. Peut-être que ça pourrait dire à ces équipes, certaines équipes que, ça, c'est un élément qu'on a besoin sur notre équipe, mais... Mais le bilan en série, si moi j'étais un DG qui appelait le Canadien, je regarderais ça puis je me demanderais des questions. Est-ce que, à quel point, s'il a fait ça avant l'âge de 28 ans, 13 buts en 71 matchs, à quoi est-ce que je peux m'attendre là qu'il a 30 ans? Étant donné que j'espère jouer en série et j'espère avoir Brendan Gallagher sur mon équipe en séries éliminatoires.
Harper, je pense que la prochaine saison va beaucoup être axée sur qu'est-ce qu'on peut faire avec nos joueurs pour pouvoir remonter leur valeur. Aller faire en sorte que, le Canadien, dans plusieurs cas, il y a plusieurs joueurs qui ont eu des rendements sous les attentes et sous leur, bien en deçà de leur moyenne individuelle respective la saison dernière. Et c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la façon dont on les prépare, dans la façon dont on les utilise, dans la façon dont ils sont coachés, pour que chacun de ces gars-là relève son jeu par rapport à l'année dernière. C'est vrai pour Hoffman, c'est vrai pour Armia, c'est vrai pour Drouin. Ben, ça peut être vrai pour Gallagher également, pour faire en sorte que dire, OK, peut-être que tous ces gestes-là à poser ne seront peut-être pas possibles dès maintenant parce que essayer de changer un joueur ou un autre placerait le Canadien en position de faiblesse. Tu ne veux pas nécessairement te placer dans une position où tu t'achètes à gros prix et tu cèdes à rabais. Tu veux pouvoir rendre tes actifs un tant soit peu attrayants. Mais je pense qu'il y a une partie du travail la saison prochaine qui va être de dire les joueurs qu'on a sous la main, on va travailler à les rendre justement plus attrayants. Et peut-être que Gallagher, justement, si le Canadien, si lui-même, avec un bon été d'entraînement, si la façon dont il est déployé fait en sorte qu'il peut avoir une bonne saison l'année prochaine, rien ne dit qu'après ça, le Canadien dira « OK, là, il a redonné confiance au reste de la Ligue, on est en mesure de le manier à un meilleur prix. » Je pense que le piège, pour n'importe quel de ces gars-là, c'est de dire « Oh, il a une bonne saison, parfait, faisons-lui confiance, donnons-lui un nouveau contrat ou rendons-nous jusqu'à la fin de l'entente avec ce gars-là. » Je pense que si tu essaies d'anticiper, de voir un petit peu plus loin à l'horizon, ben tu vas profiter simplement du timing qui est bon pour dire « On va profiter du fait que, en guillemets, son action a remonté et puis c'est le bon moment de vendre. » Alors, dans certains cas, force est d'admettre qu'il y a certains de ces alliés-là, on a fait la liste tout à l'heure, leur action est à la baisse, c'est à un prix minimum en ce moment, puis c'est pas le meilleur moment pour les échanger. Tu sais.
Oui, mais c'est ça fait l'affaire du Canadien aussi, parce qu'on s'entend, je pense que tout le monde peut s'entendre, puis je pense que Ken Hughes l'a même quasiment admis que ça va être une saison transition. Alors, pour tous les joueurs que tu viens de mentionner, s'il peut utiliser cette saison transition-là pour faciliter la tâche du Canadien de se remettre sur une base un peu plus stable financièrement, tant mieux pour le Canadien, puis peut-être même tant mieux pour ces joueurs-là qui pourraient peut-être se retrouver dans une situation un peu plus attrayante, un peu plus compétitive, où ils auront une chance de remporter une coupe plus rapidement que ce qui serait le cas à Montréal.
Ben écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique encore cette semaine. On va vous retrouver bientôt. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à notre publication athletic.com, vous pouvez le faire en vous rendant au athletic.com/supportathletic. Ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc athletic.com/supportathletic. Et je vous invite, comme d'habitude, si jamais vous êtes auditeur de notre podcast à partir de Apple Podcast, d'aller laisser une note, laisser des commentaires. Et plus on reçoit de commentaires, plus notre note est élevée, bien, il y a plus de gens qui réussissent à nous trouver sur les outils de balado. Donc voilà, c'est une façon de propager la bonne nouvelle. Merci Harpen, on se retrouve un autre tantôt. Hein?
On se retrouve quand on se retrouve.
Voilà. Ouais. I'll see you when I see you. All right, au revoir tout le monde. Bye bye.